Le micro fonctionne, vous m'entendez bien. Donc je vous remercie de cette invitation et donc ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous faire un panorama en fait des sciences du climat et puis surtout des points clés du dernier rapport de synthèse donc, qui a été rendu au gouvernement en septembre dernier et qui vient d'être publié sous sa forme complète la semaine dernière pour la partie sciences du climat. Vont suivre deux autres volets, en mars et en avril, l'un sur les impacts du changement climatique par région, par secteur d'activité, pour les écosystèmes. Et enfin, un troisième volet qui, lui, va porter sur les aspects économiques et le coût des stratégies pour limiter le changement climatique, ainsi que le coût de ces impacts. Donc avec un gros volet sur l'économie de l'énergie, en fait. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est un travail qui est un travail collectif, auquel le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement a contribué. Donc il y a contribué en produisant des connaissances, des observations, des simulations, et puis directement avec un certain nombre d'auteurs de ce rapport qui sont en fait situés à Saclay. Et puis donc ce que je voulais également mentionner, c'est que c'est un travail international. Et donc le cinquième rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, il a été chapeauté par deux scientifiques, un scientifique suisse, Thomas Stoker, et un scientifique chinois, Qin Dare. Juste pour donner quelques ordres de grandeur, donc Qin Dare, c'est quelqu'un qui a fait la transantarctique avec Jean-Louis Etienne, donc il y a dans les années 80. C'était un glaciologue. Il est devenu un héros national en Chine suite à cet exploit. Et par ailleurs, il a dirigé les services météorologiques chinois et ça représente 80 000 personnes en Chine. Donc une force de frappe importante. Donc le travail a été rédigé par 259 auteurs de 39 pays, mais en fait avec une participation collégiale beaucoup plus importante et que j'ai pu décrire. Alors je pense que vous n'êtes pas familier avec les sciences du climat pour la plupart d'entre vous. Certains des résultats que nous avons obtenus figurent dans les livres de terminale pour les spécialités sciences de la vie et de la terre, mais la plupart d'entre nous n'ont pas été exposés à l'enseignement des sciences du climat modernes dans notre formation. Alors la raison est la suivante, beaucoup des éléments de connaissance du climat sont récents. Alors on a une longue histoire, et je vous montre ici, dès l'Antiquité, un souci de surveiller la variabilité du climat d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, et même au-delà d'une vie humaine. Alors cette photographie représente des marches d'escalier sur les bords du Nil. L'Égypte ancienne était l'un des premiers états centralisés. Les crues du Nil étaient fondamentales pour la production agricole et pour les recettes fiscales, donc une double motivation à connaître leur variabilité. Et on dispose d'observations sur plusieurs millénaires de la hauteur des crues du Nil. Ce sont les premières mesures climatiques de long terme. Dès l'Antiquité, on avait conscience que le climat est piloté par la quantité d'énergie solaire. Climat veut dire inclinaison en grec. Et on rapporte à Aristote le concept de variabilité du climat. Donc il décrit dans les météorologiques. De même que dans une année succède l'été et l'hiver, dans une longue période de temps se produit un long hiver. Par rapport à notre propre existence, ces phénomènes passent inaperçus. Donc ce qu'on a là en fait, c'est une tradition orale de long terme qui témoigne d'une variabilité du climat au-delà d'une vie humaine. Alors tout ça en fait est resté un peu en plan pendant longtemps. Et puis les grandes révolutions en sciences du climat, ce sont les instruments de mesure. Le thermomètre dans les années 1650 et puis tous les autres instruments de mesure. L'observation donc, qui permet d'avoir une mesure objective, comparable dans différentes régions et pas simplement le rapport humain. Ensuite, la standardisation de ces mesures, les unités calibrées. Les grands réseaux météorologiques qui se mettent en place, je dirais, à grande échelle à partir des années 1860-1880. Et on a, dès cette époque, également des mesures systématiques des températures de la mer, en particulier sur les navires marchands. Donc, à côté de ces capacités d'observation à terre, en mer, au sol, se développe plus récemment la surveillance du climat par satellite, avec une vraie rupture à partir des années 1970. Et on a, maintenant, la capacité d'observer le climat vraiment globalement. Par ailleurs, donc, les briques de base qui permettent de comprendre le fonctionnement de l'atmosphère, le fonctionnement de l'océan, leurs interactions. relation avec les glaces, avec la surface des continents, avec la végétation, ces briques de physique de base, elles naissent pour moi essentiellement au 19e siècle, avec la physique des fluides, appliquée à l'océan et à l'atmosphère, qui sont en fait très bien connues, la thermodynamique, et qui permet de comprendre le rôle de l'humidité dans l'atmosphère, le fait que la température de l'air contrôle la quantité d'humidité qu'il peut transporter, le rôle de cette vapeur d'eau dans les mouvements de l'air, et puis surtout les transferts de rayonnement. Et à la fin du XIXe siècle, donc on a eu des pionniers comme Joseph Fourier, comme Svante Arrhenius, qui ont commencé à faire des calculs, et si on brûlait tout le charbon, que se passerait-il? On rajouterait de l'effet de serre et le climat se réchaufferait. Et à l'époque, les grands débats portaient sur les changements climatiques passés. Et pour ceux qui s'intéressent aux controverses scientifiques, celles qui ont pu avoir lieu récemment sur le climat n'ont rien à voir avec le niveau des controverses au XIXe siècle, qui opposait une vision religieuse d'un monde figé, et puis les résultats des glaciologues, des naturalistes, qui, à partir des vestiges des glaciations passées, des changements de flore, de faune, ont démontré que le climat de la Terre avait varié très fortement au cours du temps, et puis de nombreuses théories s'imposaient. Et le travail sur les études des climats passés, il a permis de dater ces grands changements, de les quantifier, de les modéliser et donc de les comprendre. Et c'est un point aussi important, cette compréhension des changements passés, parce qu'il met en évidence le fonctionnement de la machine climatique en réponse à différentes perturbations, des changements à l'échelle géologique, des changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil, la réponse à de grandes éruptions volcaniques passées, par exemple. Et on utilise en fait ces climats passés comme des bancs d'essai qui nous permettent de tester la modélisation du climat. Et ça, c'est le dernier élément important. Depuis l'après-guerre, on a mis en équation l'atmosphère pour essayer de prévoir ses mouvements à quelques jours. C'est la prévision météorologique. À partir des années 1970, la puissance de calcul a explosé. Et on a pu modéliser pas uniquement l'atmosphère sur quelques jours, mais l'atmosphère, l'océan, la surface des continents et des glaces, leurs interactions et sur des périodes de temps de l'ordre, à l'époque, de quelques mois. Dans les années 80, quelques années, les années 90, quelques siècles, et aujourd'hui, quelques milliers d'années. Donc on a cette capacité de modéliser ce système extraordinairement complexe qu'est le système climatique, et ce sont pour moi les ruptures majeures des dernières décennies. En sciences du climat, on est à peu près 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs en France au sens très large. Au niveau international, peut-être 20 000 personnes aujourd'hui. Il y a 15 000 publications scientifiques par an, personne n'est capable de les lire toutes. Et il y a une vraie difficulté à transmettre ces connaissances vers les décideurs. Pourquoi? Parce que le climat conditionne la production agricole, le climat est lié au risque naturel, et le climat affecte profondément les écosystèmes et les sociétés humaines. Donc il y a un vrai besoin de transmettre ces connaissances, et donc il y a un groupe intergouvernemental qui a été mis en place à la fin des années 80 pour faire une synthèse de ces connaissances et le transmettre au gouvernement et puis aux curieux qui veulent lire ces rapports. Alors, en quelques illustrations, quels ont été les progrès récents en termes d'observation? Alors, cette carte, je ne sais pas si vous voyez très bien, elle montre en fait la date à partir de laquelle on a des relevés météorologiques. Alors, dans les pays développés, c'est souvent à partir de, en France, 1780 par exemple, et puis standardisé 1850. Dans les pays tropicaux, c'est souvent beaucoup plus récent, hein, souvent uniquement dans la deuxième moitié du XXe siècle. En Antarctique, 1957, avec l'année géophysique internationale. Donc bien sûr, à mesure que le temps passe, la qualité de l'information s'améliore, la couverture spatiale s'améliore. Et ce qui est indiqué ici, c'est le nombre de sources satellites utilisés pour l'étude du climat, une dizaine d'informations en 1996 et aujourd'hui presque une soixantaine d'informations différentes complémentaires. Donc on voit ce progrès majeur et sur les dernières années, cette capacité à faire des mesures de profils verticaux dans l'atmosphère, ce qui est par exemple essentiel pour suivre le rôle des nuages dans les échanges de rayonnement, leur rôle sur le climat. Côté marin, également d'énormes progrès. Alors, je les illustre ici sur le nombre de mesures de profil de température, non pas uniquement en surface, mais sur les premiers 700 mètres des océans. Des profils assez profonds et qui sont essentiels pour mesurer la quantité d'énergie que stockent les océans. Et on va voir que c'est déterminant pour le climat. Alors, en 1950, on avait donc des campagnes régulières de mesures, essentiellement dans le Pacifique Nord et l'Atlantique Nord, près des pays riches. On a construit un réseau international d'observation et vous voyez qu'on a une bien meilleure couverture de mesures, y compris dans l'océan Pacifique tropical, qui est un des lieux où la variabilité du climat est la plus forte, et même autour de l'Antarctique, qui est évidemment plus difficile d'accès. Et puis, troisième illustration de progrès majeur, donc la modélisation du climat à partir de la mise en équation de ces différents compartiments. Alors, c'est illustré en fonction du temps ici, les années 70, les années 80, le premier rapport, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapport du GIEC. On mesure le temps par nos rapports, en fait. Et on a ici une illustration des progrès pour la modélisation de l'atmosphère, des surfaces continentales. On rajoute les océans, au début on les voyait comme des flaques. Et puis ensuite on les a représentés comme des choses où la mer bouge, et on a des courants en surface et en profondeur, ce qui est essentiel. Et puis on les représente aussi comme des océans qui contiennent du vivant, du plancton, et puis ce plancton il joue un rôle sur le cycle du carbone, par exemple. On représente aussi les poussières contenues dans l'atmosphère, ce qu'on appelle des aérosols, des poussières qui vont venir des déserts, mais aussi des poussières qui vont venir par la pollution en fait, liée aux activités en particulier industrielles. On va représenter le couplage entre le climat et le cycle du carbone. Quand on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, on a des effets sur les plantes, on a des effets sur les écosystèmes marins, et vice-versa, et on les prend en compte de manière simplifiée. On va prendre en compte le fait que la végétation réagit quand le climat change, et certains écosystèmes peuvent être remplacés par d'autres. Typiquement, quand le climat se réchauffe, les forêts s'étendent en altitude et puis vers le nord, par exemple. Et puis on va prendre en compte le fait qu'on a des interactions entre la qualité de l'air, la chimie de l'atmosphère et le climat, et qu'on a également des interactions entre le climat et les glaciers. Alors aujourd'hui, les simulations qui sont faites avec des modèles pour toute la planète, ils représentent, vous voyez le relief et donc la circulation de l'atmosphère sur des cubes, et en surface, ils font à peu près 100 km par 100 km. Donc on peut représenter l'effet du relief des Alpes de manière assez grossière, mais ce n'est pas une résolution suffisante pour représenter correctement la distribution des précipitations et les impacts du climat à petite échelle. Donc on a des exercices en cours pour raffiner avec des modèles plus régionaux, les mêmes utilisés pour la prévision du temps, et pour appréhender plus finement les conséquences d'un climat qui change au niveau territorial, au niveau d'un bassin versant au niveau d'une région. Alors donc le GIEC ou l'IPCC en anglais a été établi en 1988 et c'est une coproduction sciences et politiques. Donc il est en fait sous les auspices de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est un héritage d'une action similaire menée par rapport à la question de la destruction de l'ozone qui avait permis de bannir la production des fréons qui était impliqué dans cette destruction de la couche d'ozone qui filtrait le rayonnement UV. Donc le GIEC en fait n'est pas un laboratoire de recherche, le GIEC ne paye quasiment personne. Il est uniquement là pour produire des rapports sur des questions liées au climat. Donc l'aspect science du climat, c'est ce que je vais vous présenter, les impacts et puis les aspects économiques. Ce qui est très important de voir, c'est que la contribution se fait sur la base du volontariat bénévole, en plus de la charge normale de travail, d'enseignement ou de recherche que nous avons tous. Par ailleurs, donc, le GIEC doit être lié aux enjeux politiques, bien sûr, on fournit une information pour des gouvernements, mais on ne doit jamais être prescriptif. Donc on fait juste un état des connaissances, mais on ne définit jamais quels doivent être les choix. Alors, donc ça c'est en anglais, je suis désolée, mais je vais vous le résumer. Donc c'est une procédure d'assez longue haleine. Le travail il a démarré en 2009, donc le rapport précédent daté de 2007. Le travail a démarré en 2009. Les gouvernements ont commencé à réfléchir, à solliciter d'ailleurs des candidatures pour le petit groupe qui coordonne la rédaction. Et puis, à faire un appel à volontaires dans la communauté scientifique pour les gens qui voudraient rédiger ces rapports. Donc, il y a eu une sélection des auteurs à partir des candidats, sur la base, en fait, des publications et des facteurs d'impact, classiquement. Et puis, avec la difficulté d'avoir un renouvellement à 60% des auteurs, donc ce ne sont pas les mêmes qui écrivent tous les rapports, et d'avoir un équilibre des pays, et d'avoir un peu de parité, donc bon, 15% de femmes, c'est pas terrible. Alors, je vais dire, vous êtes un scientifique américain très reconnu dans votre domaine, c'est très difficile d'être choisi comme un des auteurs du rapport, parce qu'il y a une communauté américaine très forte, très en pointe et diverse. Vous êtes une femme d'un pays du Sud et très forte dans votre domaine, vous êtes sûre d'être prise. C'est un peu le biais, en fait, hein, de ces équilibres par pays. Et c'est un point très important parce qu'en fait, on va couvrir le climat global, mais aussi le climat de différentes régions. Et c'est très important d'avoir des spécialistes de chaque région. Ensuite, donc, le rapport, les auteurs. Donc, pour chaque chapitre, on est une quinzaine d'auteurs. On ne se connaît pas nécessairement au départ. On se réunit une première fois et on définit la trame qu'on veut mettre dans chaque chapitre, entre nous. Alors, on a un petit cadrage des points que les gouvernements veulent voir traités. Donc moi, j'ai coordonné avec un collègue allemand la rédaction du chapitre sur les climats passés. Alors, on fait notre premier brouillon, qui est en fait très mauvais. On le fait relire à des gens qu'on a choisis et qui nous disent que c'est très mauvais. Donc, on recommence, on change la structure. Et là, on fait un premier brouillon qui est en fait beaucoup mieux, qui part en relecture par l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, il y a un site web ouvert, on peut s'inscrire si on a fait quelques publications. Et on est obligé de répondre à tous les commentaires reçus. Alors, ces commentaires reçus, ça peut être, vous n'avez pas cité mon travail à moi particulièrement important. Ça peut être, vous êtes biaisé sur vos propres travaux, c'est un fait. Nous connaissons mieux nos travaux que les autres, souvent. Vous n'avez pas traité ce point de controverse et ces éléments importants qui existent, et on est obligé de le prendre en compte. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en général, le fait qu'il y ait plus de personnes qui relisent et critiquent permet franchement d'améliorer les choses. Donc ensuite, on a un troisième brouillon qui part en relecture par la communauté scientifique et par des experts nommés par les gouvernements. Alors en France, c'est accueilli par l'Académie des sciences. Et ça a été fait tellement bien que j'ai reçu mon propre chapitre à relire. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai dit que j'en pensais beaucoup de bien. Et en fait, après, j'ai dit que je ne pouvais pas relire franchement. Donc en fait, ça a été plutôt bien fait. Et par cette méthode-là, en fait, les gouvernements ont choisi des spécialistes de chaque aspect. Donc qui étaient là non pas pour défendre une politique de gouvernement en général, mais pour faire une relecture scientifique. Là où les gouvernements ont été les plus performants, je dirais, c'est l'Allemagne, qui a couvert en fait tous les champs thématiques de manière très organisée. La Chine, qui a pointé toutes les cartes et qui a dit « vous enlevez les frontières de toutes ces cartes, on va les contester ». Et puis la Russie qui, en fait, à chaque fois fait des remarques en disant « il faut promouvoir la manipulation délibérée du climat ». Enfin, c'était assez instructif à lire. Par ailleurs, à la fin, donc, on a un rapport d'à peu près 1300 pages, je crois. On fait un résumé technique de 100 pages, qui se lit assez bien. On a enlevé les références, on a enlevé les choses un peu lourdes à lire. On met l'accent sur les points clés et les incertitudes. Et de là, on fait un résumé pour décideurs d'une vingtaine de pages, avec 19 points clés. Donc vous voyez, c'est comme le résumé à la fin d'un livre, en fait. Hein. C'est vraiment très distillé. Et celui-là, en fait, il est approuvé, mot par mot, dans une réunion plénière avec les représentants des gouvernements. Donc c'est intéressant quand on est scientifique de voir comment fonctionnent les diplomates. Moi personnellement, je ne m'attache pas trop aux mots, je m'attache aux chiffres et aux graphes. Mais alors les diplomates, ils ne marchent pas comme ça. Ils sont très très attachés aux mots, et en particulier au fait que les mots employés ne puissent pas être ensuite utilisés dans des traités contraignants pour des choses vérifiables en fait. Alors, cette étape-là, elle est souvent contestée. Elle est souvent contestée au sens où on voit de la politique qui rentre dans le champ scientifique. Mon ressenti est le suivant. Pour l'approbation de ce résumé-là, je ne peux pas parler pour les autres, on a un certain nombre de gouvernements qui ont tout fait pour atténuer les conclusions du rapport. Ces gouvernements sont ceux de l'Arabie Saoudite, d'une part, et les enjeux sont évidents, et d'autre part, la Chine, et qui avait sous la main un staff d'une quinzaine de gens brillants qui avaient relu tous les chapitres, tous les éléments. Et la position de la Chine était de ne pas se faire dicter sa politique par d'autres enjeux. Donc ils respectaient les connaissances scientifiques, mais ils étaient très vigilants à ne pas avoir des conclusions qui puissent être utilisées dans des traités internationaux. Et à la fin, en fait, on a un texte très puissant, je pense, parce qu'il est approuvé par tous les gouvernements au consensus, aussi bien les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde, qui ont tous des agendas politiques différents, et c'est un socle commun de travail sur les questions du climat. Et donc cette étape d'approbation, elle permet en fait d'éviter, dans d'autres discussions, de revenir en arrière, de mettre en cause un point de détail sur la question du climat. C'est une base commune, je dirais. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien qu'il y ait un rapport comme ça sur l'énergie. Alors, le rapport, il est centré en fait sur l'incertitude, le rapport détaillé. Quels ont été les progrès, qu'on remet en cause les connaissances précédentes, quels sont les nouveaux éléments. Et une spécificité, c'est une formulation calibrée de l'incertitude. Donc, on va évaluer les éléments disponibles, les observations, la théorie, les études de processus ou la modélisation, leur cohérence. Et pour chaque conclusion, on va donner une évaluation de la confiance. Donc on va dire confiance faible, moyenne ou forte. Pour un sujet complexe comme celui du climat, où on a toujours de multiples facteurs à l'œuvre, on ne peut jamais avoir une démonstration parfaite. Donc cette évaluation du degré de confiance, elle est importante. Et par ailleurs, quand cela est possible, on quantifie l'incertitude. Par exemple, sur un scénario où on continue à émettre toujours plus de gaz à effet de serre, on va donner la valeur moyenne du réchauffement simulé et puis la dispersion entre tous les calculs qui existent. Ce n'est pas l'incertitude complète, c'est l'incertitude qu'on peut quantifier. Alors, il y a une historienne des sciences américaines qui dit qu'en fait, on est comme les religieux des siècles précédents. En fait, on se fait du mal pour prouver notre intégrité. Vous savez, quand les gens jeûnaient et se flagellaient pour montrer qu'ils étaient, ils respectaient bien les règles religieuses, elle dit qu'en fait, cette approche-là, elle rend le rapport illisible. Quand on dit à 95% de confiance, voilà un résultat important, bah, un politique, il se trompe à 5%. Et donc, les gens qui s'intéressent à la manière dont le rapport est perçu sont très critiques de ce travail toujours assez approfondi pour à chaque fois mentionner finalement nos incertitudes. Et donc le rapport est en fait illisible pour le commun des mortels à cause de ce jargon, je dirais. Alors comment il est organisé? Il est organisé en 14 chapitres et la structure est la suivante. On a une introduction qui fait le point sur l'histoire des sciences et qui fait le point sur ce rapport par rapport au précédent. Si vous cherchez par exemple la base de l'effet de serre, vous ne la trouverez pas là. Elle a été décrite dans le premier rapport en 1990, et cette physique de base, elle n'a pas tellement évolué. L'effet des transferts radiatifs, etc. Donc ça, ce n'est pas dedans, c'est dans le premier rapport. Si vous cherchez à savoir ce que c'est qu'un modèle de climat, depuis la base, hein, les équations de Navier-Stokes, etc., c'est pas là, c'est dans le premier ou deuxième rapport que ça a été détaillé. En fait, là, c'est plutôt où on en est, un instantané, par rapport à cette évolution du progrès des méthodes, etc. Alors ensuite, on a les observations. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'atmosphère et de la surface des continents? Qu'est-ce qui se passe du côté des océans? Et là, d'énormes progrès dans ce rapport par rapport au précédent. Qu'est-ce qui se passe du côté des glaces? Banquises, neige, glaciers, calottes de glace. Ensuite, il y a ce chapitre sur les climats passés. Quels ont été les ordres de grandeur des changements passés? Comment est-ce qu'on est capable de les modéliser? Quelle confiance cela donne au modèle de climat qu'on teste sur des grands changements passés? Ensuite, on a un chapitre sur le cycle du carbone et les grands cycles qu'on appelle biogéochimiques. On a un chapitre spécifique sur les nuages et les aérosols. C'est l'une des sources principales d'incertitude. Ce sont des phénomènes de petite échelle, rapides, mais qui ont un impact sur le climat global. Et donc on a un chapitre dédié à cette question-là. Ensuite, on a un chapitre sur ce qu'on appelle les perturbations radiatives, c'est-à-dire tout ce qui change le bilan d'énergie de la Terre. Donc activité du soleil, volcans, gaz à effet de serre et particules de pollution, tout ce qui va soit rajouter de l'effet de serre, soit avoir une sorte d'effet parasol sur le climat de la Terre. Et donc on peut comparer ces différents facteurs en watts par mètre carré en fait. Et puis ensuite, on a un point sur les modèles de climat et le fait que parfois, quand on progresse, on n'améliore pas nécessairement les performances parce qu'on simule mieux des phénomènes qui n'étaient pas forcément pris en compte précédemment. C'est la réalité, en fait. Hein. Et puis, sur la suite, c'est l'utilisation de ces modèles de climat pour comprendre la part des activités humaines dans les changements observés, pour évaluer les risques à court terme, 30 ans, et puis les risques à plus long terme, 30 ans, 100 ans et au-delà. Une synthèse sur le niveau des mers, parce que ça pose évidemment des enjeux majeurs et l'actualité nous le montre tragiquement. Et puis enfin, un point sur ce qu'on appelle les phénomènes climatiques, c'est-à-dire vagues de chaleur, précipitations intenses, tempêtes, moussons, ces phénomènes qui ont un maximum d'effets sur nos activités. Alors, en quelques chiffres,
tu prends sa place.
900 publications scientifiques citées.
Alors, je n'ai
pas dit la quantité de données générées, mais elle est colossale. 259 auteurs et 600 contributeurs qu'on a sollicités en plus. On a reçu 54 000 commentaires de 1000 experts. Ça a pris énormément de temps de répondre à ça. Et on a également, en plus de ces chapitres, en ligne, un atlas. Donc, si vous vous intéressez au changement de température en Europe en 2050, vous avez une carte qui vous montre, en zoom sur l'Europe, le résultat de ces simulations pour différents scénarios. L'Europe, l'Arctique ou la région que vous voulez. Et puis on a ces points clés sur lesquels je vais me focaliser maintenant. Alors, premier point clé, on entend parfois dire que le climat ne se réchauffe plus. Je pense que vous l'avez entendu. Hein. Donc, le réchauffement, en fait, il est sans équivoque. Et il est sans équivoque depuis un ensemble de mesures qui, en fait, sont cohérentes. Donc on observe un réchauffement de l'air au-dessus des continents et de l'air au-dessus des océans. On observe un réchauffement des températures de la mer de surface et des températures en profondeur, donc de la quantité d'énergie totale dans les océans. On observe également un recul de la couverture de neige, au printemps en particulier. On observe une fonte de la plupart des glaciers et des calottes de glace. Comme l'océan se réchauffe et qu'il gagne du volume en se dilatant, comme il gagne également du volume par l'écoulement de l'eau qui était stockée sur les continents dans les glaciers, le niveau des mers monte. Enfin, une atmosphère plus chaude est une atmosphère qui peut contenir plus d'humidité. Et on observe une augmentation de la quantité de vapeur d'eau en moyenne en surface. Donc on a ce panorama cohérent d'un climat qui accumule de l'énergie. Cette énergie, elle est stockée sous le réchauffement de l'air, la fonte des glaces, le réchauffement des sols et le réchauffement des océans. Beaucoup des aspects des changements observés aujourd'hui, ils sont sans précédent. Sans précédent parfois depuis plusieurs millénaires. C'est le cas pour le réchauffement des températures de surface dans l'hémisphère nord. C'est le cas pour la montée du niveau des mers. En ce qui concerne les changements de composition atmosphérique, je vous montrerai qu'on est dans une situation vraiment exceptionnelle sur les teneurs en dioxyde de carbone actuelles. Ça, c'est ce qu'on appelle le réchauffement global. Donc, c'est la tendance des températures entre 1901 et 2012. On n'a pas de données là où on n'avait pas d'enregistrement fiable sur cette période longue. Donc, c'est un réchauffement qui est plus marqué sur les continents que sur les océans, et dont l'amplitude est particulièrement forte tout autour de l'Arctique, où on a subi plus de 2 degrés de réchauffement, ne serait-ce que sur une génération, c'est-à-dire une trentaine d'années. Alors si on regarde sous forme de série temporelle, entre 1850 et aujourd'hui, à quoi ressemble un des indicateurs, qui est la température moyenne de l'air en surface ? On a là les 3 estimations qui existent, une japonaise, une britannique et une américaine. Et vous voyez qu'elles sont en bon accord. Alors moi, j'aime bien le scepticisme. Je suis payée par de l'argent public pour être sceptique. Il y a une équipe américaine de physiciens de l'université de Berkeley qui a mis en cause, en fait, ces estimations, qui se sont fait payer par l'industrie chimique et qui ont repris toutes les données et qui ont refait tout le travail. Et ils arrivent au même résultat. Donc, on observe un réchauffement si on fait passer une tendance linéaire qui est environ de 0,85 degrés. Des températures relativement stables à la fin du 19e siècle, une première vague de réchauffement dans les années 1900-1940, un palier, une deuxième vague de réchauffement dans les années 1970-2000. Si on prend sur les derniers 15 ans, on a un réchauffement qui se poursuit, mais dont le rythme s'est légèrement ralenti. Ce qu'on en comprend, c'est que c'est essentiellement dû à davantage de chaleur stockée dans l'océan Pacifique. Alors, ce qu'on peut également regarder, c'est dizaines d'années par dizaines d'années. Donc, en moyenne, on efface les pics et les creux. Et on voit que chacune des dernières décennies a été plus chaude que la précédente. Cette période de 30 ans dans l'hémisphère nord est la plus chaude depuis 1450 années. Elle est plus chaude, avec un degré de confiance moyen, que la période médiévale, qui était un peu plus douce, que les siècles précédents et suivants. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel déjà. On peut également observer l'évolution de la quantité d'énergie stockée dans les océans en profondeur, c'est-à-dire sur toute l'épaisseur des océans. Vous voyez que la barre d'erreur elle est élevée. En 1950, notre réseau de mesure était faible. Et cette barre d'erreur elle se réduit parce qu'on mesure de mieux en mieux. Et on voit cette augmentation, hein, 10 fois 10 puissance 22 joules d'énergie supplémentaire stockée dans les océans. Un point important à retenir, sur l'énergie en plus qui s'accumule à la surface de la Terre, sur 100%. Le réchauffement de l'air où nous vivons, c'est 1% du surplus d'énergie. Le réchauffement des sols, c'est 3%. La fonte des glaces, c'est 3%. 93% de l'énergie en plus rentre dans les océans. Et du coup, elle affecte l'atmosphère et elle va l'affecter pendant longtemps. Le temps de mélange des eaux de mer, c'est 1000 ans. Du côté de l'Arctique, je vous ai expliqué que les changements sont spectaculaires et ils sont particulièrement prononcés pour la couverture de banquises. Donc c'est de l'eau de mer gelée qui recouvre le pôle Nord. En 1900, on avait à peu près 10 millions de kilomètres carrés au mois de septembre, pendant la période où il y a le moins de banquises. Aujourd'hui, c'est tombé pendant les minima records de 2007 et de 2012 autour de 6 millions de kilomètres carrés, donc quasiment deux fois moins d'étendue de banquise autour du pôle Nord. Du côté de l'Antarctique, on a une légère augmentation de la couverture de banquise, très hétérogène selon les régions, et dont on pense que c'est dû à l'effet du trou de la couche d'ozone en Antarctique qui a changé les vents et qui a eu des effets contradictoires par rapport au réchauffement. Donc sur les deux dernières décennies, on a également donc une fonte nette du Groenland et de l'Antarctique, et de la plupart des glaciers, même s'il y a évidemment des exceptions régionales. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau des mers? Donc un océan qui se réchauffe, des glaciers et des calottes de glace qui fondent, font monter le niveau des mers. Entre 1900 et 2000, la montée nette du niveau des mers est d'environ 20 cm. Le rythme actuel, depuis une vingtaine d'années, c'est 3 mm par an. C'est déjà un peu plus rapide, hein. Ça fait à peu près 30 cm par siècle. Alors, quelques repères, les digues françaises, beaucoup datent du 19e siècle, beaucoup datent des années 1950. On a déjà, en fait, un niveau des mers du côté de Brest qui a monté d'environ 20 cm. Un climat qui change, c'est aussi un cycle de l'eau qui change. Cette figure, on ne l'avait pas dans le résumé pour décideurs, et elle a été rajoutée à la demande de pays africains. Alors, je vais ajouter un commentaire. Les sciences du climat, c'est une science de pays riches. Il faut des réseaux d'observation, des technologies spatiales, des supercalculateurs, etc. Dans de nombreux pays du Sud, ils ne disposent pas de cette connaissance. Ils ont des services météo, mais ils ne disposent pas d'experts sur la question du climat. Si vous vivez en Afrique, votre problème n'est pas à court terme le changement de température. Il pourra l'être, mais à court terme, c'est évidemment les changements de pluviométrie. Et donc, ces pays africains ont insisté pour qu'on présente à leur gouvernement ces changements du régime des pluies. Donc, en ce qui concerne les précipitations, les jeux de données sont beaucoup moins bons que pour les températures. Très difficile à mesurer dans les zones où il neige. Et puis, souvent, très variable sur des distances assez courtes, des effets de microclimat. Donc, si on regarde là où on a le plus de données, c'est-à-dire entre 1951 et 2010, on observe des changements très contrastés sur les précipitations. On observe une diminution dans certaines zones de climat méditerranéen ou semi-aride. Et à l'inverse, on observe une augmentation dans les zones tempérées ou polaires. Alors ça, c'est les données terrestres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des mesures de la salinité des mers. Et les données sont très cohérentes. Ce qu'on observe du côté des océans, c'est les régions qui sont très salées, c'est-à-dire où on a beaucoup d'évaporation, deviennent plus salées. Donc ça veut dire que les pluies baissent dans les régions sèches. Et à l'inverse, dans les régions qui sont peu salées, là où les précipitations dominent, on a une diminution de la salinité. Donc en fait, on augmente les contrastes. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on comprend cette structure par rapport au changement de la circulation atmosphérique de grande échelle. Et puis pour terminer sur les observations, un des changements évidemment les plus prononcés, c'est l'évolution de la composition atmosphérique en un certain nombre de gaz à effet de serre, au premier lieu le dioxyde de carbone, CO2. Donc on voit ici entre 1950 et 2012 la concentration en parties par million du dioxyde de carbone mesuré dans l'atmosphère, et c'est assez homogène globalement. Donc on est passé en fait de 320 parties par million à 400 parties par million aujourd'hui. C'est 40% de plus que le niveau pré-industriel. Le niveau actuel, c'est celui que notre planète a connu pendant une période chaude, qu'on appelle le Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. Pendant cette période, le niveau des mers était plus élevé qu'aujourd'hui, d'au moins 10 mètres. Le climat était 2 à 4 degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Donc ces climats passés à l'échelle géologique, ils nous montrent que quand on a 400 parties par million de CO2 et que ça reste pendant des milliers d'années, on a un climat qui est en fait plus chaud avec moins de glace. Donc nous, ce qu'on fait en brûlant des énergies fossiles, c'est qu'on reconstitue une atmosphère riche en CO2, comme notre planète en a connu à l'échelle géologique ancienne. La formation du pétrole, du charbon, du gaz, ça avait en fait stocké ce CO2 ancien, et nous on le remet très rapidement dans l'atmosphère. Alors, il rentre dans l'atmosphère, il rentre dans les eaux de mer, et donc la teneur en CO2 des eaux de mer augmente, et le pH de l'océan baisse. Il a baissé de 0,1 unité, ça veut dire 10 fois plus d'ions hydrogène dans les océans, ce qu'on appelle l'acidification des mers. Alors l'océan, en fait, absorbe une partie importante de nos émissions de gaz à effet de serre, mais il n'est pas le seul. Ce qui est intéressant à regarder, ce sont les secteurs d'activité qui rejettent du CO2, et ensuite ce qu'il devient. Donc si on regarde en termes d'activité humaine, ce qui rejette le plus de CO2, c'est la production de ciment, l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon. Alors chaque source d'énergie fossile, c'est évidemment ajouté aux autres. Alors je vais juste donner un exemple récent. On développe les gaz de schiste aux États-Unis. Ça fait effondrer le prix du charbon. Le charbon, ils ont toujours en fait. On ajoute en fait ces deux sources d'énergie fossile. L'une ne se substitue pas à l'autre. Donc si on prend l'évolution récente, on voit que la grosse rupture en termes de rejet de CO2 par la consommation d'énergie fossile, c'est 1950, c'est là que ça s'est vraiment emballé. Et sur la période la plus récente, l'augmentation la plus remarquable, c'est celle du charbon, qui est la source d'énergie qui rejette le plus de CO2 par kilowattheure produit. On peut également comparer l'impact de la déforestation, donc quand on brûle une forêt, on rejette du CO2, et l'impact de l'utilisation d'énergie fossile. En 1950, c'était à peu près à part égale. Et on voit que l'effet de la déforestation est resté élevé mais stable. Donc on a dans certaines régions un ralentissement, comme au Brésil. Dans d'autres régions, la poursuite de la déforestation, en Indonésie, en Afrique. Et puis en Russie ou en Europe, on a des forêts qui repoussent sur des terres agricoles abandonnées. Donc la stabilité ici, elle masque des contrastes assez importants selon les régions. Par contre, le rôle de la déforestation, il est devenu mineur, parce qu'on a augmenté quasiment d'un facteur 5 le poids des rejets liés aux énergies fossiles. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre, donc 1 dixième déforestation, 9 dixièmes énergie fossile, qu'est-ce que ce CO2 devient? On en a à peu près un tiers qui est absorbé par les océans, qui s'acidifient. On en a à peu près un quart qui est absorbé par les sols et la végétation. C'est l'effet fertilisant du CO2. Et vous voyez que la partie stockée par la végétation dépend du climat. Quand on a des sécheresses, on n'a plus cet effet-là. Et puis ce qui reste, ça s'accumule dans l'atmosphère, et ce CO2 va y rester actif très longtemps. vous êtes peut-être venu en voiture. Donc, le CO2 que vous avez rejeté, on estime qu'il y en aura encore 40% présent dans l'atmosphère dans 1000 ans. Donc, de ce point de vue-là, c'est un déchet à relativement longue durée de vie. Alors, ensuite, on peut comparer en watts par mètre carré l'effet sur le bilan d'énergie de la Terre, des différents gaz à effet de serre, des particules et puis des facteurs naturels qui jouent sur le climat. Je vais juste, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, je sais qu'il est affreux ce graphique. Donc je vais essayer juste d'attirer votre attention sur les points principaux. L'effet net des activités humaines, c'est un effet d'énergie en plus, c'est un effet de réchauffement. Faible dans les années 50, un demi-watt par mètre carré, il a doublé jusqu'aux années 80 et il a redoublé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, de manière nette, par surface en mètre carré, l'effet des activités humaines, c'est de stocker 2,3 watts par mètre carré. Donc c'est significatif et c'est important à l'échelle du climat. Qu'est-ce qui joue le plus? L'effet positif qui joue le plus, c'est le CO2. Vous voyez, c'est l'effet qui domine. Ensuite, c'est le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, auquel nos activités essentiellement agricoles, mais aussi sur le charbon et le gaz, contribuent. Qu'est-ce qui compense? Ce qui compense en partie, c'est les particules de pollution. Il y a 50 ans, essentiellement en Europe, en Amérique du Nord. Aujourd'hui, essentiellement en Asie du Sud-Est. Donc ces petites particules, aérosols contenant des sulfates, qui ont localement concentré autour des grandes villes un effet refroidissant. Donc la distribution dans le temps, dans l'espace, n'est pas du tout la même. Mais une partie de l'impact de nos activités par les gaz à effet de serre est compensé par l'effet de ces particules et leurs conséquences sur la formation des nuages. Si on regarde l'évolution au cours du temps de ces différents termes, on voit aussi l'importance des facteurs naturels. Donc en rouge, vous avez l'impact des activités humaines sur le climat en watts par mètre carré. Modeste au début du XXe siècle et avec une forte accélération depuis 1950. Et puis à ça s'ajoutent des facteurs naturels. En jaune, vous avez les cycles de 11 ans du Soleil. Vous voyez qu'ils sont présents, qu'ils ont un effet modeste à l'échelle d'une dizaine d'années. On a eu une légère augmentation de l'activité solaire dans les années 1900-1950, et puis là on est plutôt sur un minimum assez net. Cette activité solaire joue sur le climat global, mais au second ordre. Et puis enfin, ce qui joue énormément, ce sont les éruptions volcaniques majeures, ce sont ces pics. Quand on a du volcanisme explosif, ça met des particules dans la haute atmosphère et ça fait un effet parasol pendant 1, 2, 3 ans. Donc par exemple, en 91, on a eu l'éruption du Pinatubo et ça a fait un petit coup de froid sur la température planétaire. Donc évidemment, quand on regarde ce graphe, on comprend tout de suite qu'il va falloir faire la part des choses entre l'activité humaine et les facteurs naturels, soleil, volcan, sur le climat. Et je vais vous montrer un des résultats. Pour évaluer l'évolution future du climat sur le long terme, on va essentiellement se focaliser sur des scénarios de perturbation par nos activités, parce que c'est le terme qui domine. Mais il faut être bien conscient qu'à 10 ans, à 30 ans, des changements de l'activité du Soleil, des éruptions volcaniques vont être présentes et vont rendre l'évolution réelle plus complexe. Alors voilà le résultat qui nous permet de conclure sur le rôle des activités humaines. C'est un résultat basé sur des simulations. On démarre en 1850 par un état initial de l'océan, de l'atmosphère, et on impose au modèle de climat uniquement les facteurs naturels soleil-volcan. Et on fait ce calcul avec tous les modèles de climat qui existent, il y en a une quarantaine, deux en France. Donc il y a des modèles développés au Japon, en Chine, aux États-Unis, etc. Ils montrent tous des résultats assez cohérents. Si on avait eu que les facteurs naturels, on aurait eu un léger réchauffement entre les années 1900-1950 et puis un léger refroidissement. C'est surtout lié à l'activité des volcans. Ensuite, on repart en 1850 et on rejoue l'histoire du climat, mais en ajoutant l'impact des activités humaines. Bien connu pour les gaz à effet de serre, plus incertain pour les particules de pollution. Et quand on fait cet exercice, on a l'enveloppe ici en rose. Tous les modèles de climat simulent un réchauffement dans les années 1900-1950 Et puis surtout, ce réchauffement très fort, observé à partir des années 1970. On regarde également la structure continent-océan. Un réchauffement plus prononcé sur les continents que les océans. On regarde la structure verticale du réchauffement. On regarde l'évolution de la banquise en Arctique, en Antarctique. On regarde les changements des précipitations. Tous ces aspects-là. Et dans tous les cas, on ne peut expliquer les changements observés que quand on prend en compte l'impact de l'homme. Donc on conclut en fait que la majeure partie du réchauffement, on peut l'attribuer à l'influence de l'homme sur le système climatique. Alors, je vous passe le détail. Ce qui est vraiment nouveau dans ce rapport, c'est de l'établir au niveau planétaire, mais aussi région par région. Et on ne détecte cet impact qu'à des moments en fait différents selon les régions, assez tardivement en Europe, la fin des années 80. On le détecte donc pas uniquement sur le réchauffement, mais aussi sur le cycle de l'eau, les changements des précipitations géologiques, la fonte des neiges et des glaces, la montée du niveau des mers, qui n'est pas due à des facteurs naturels, mais qui s'explique par l'impact de nos activités sur le climat, et enfin sur la modification de certains extrêmes. Donc on peut montrer que l'impact de l'homme sur le climat a renforcé l'intensité des vagues de chaleur et a renforcé l'intensité des événements de très fortes précipitations. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces événements-là, aujourd'hui, on les appelle des catastrophes naturelles. Mais en fait, il y a une dimension humaine dans l'intensité de ces catastrophes naturelles. Il est impossible de vous dire si cette canicule ou cette tempête est due à l'impact de l'homme. C'est impossible. Par contre, statistiquement, quand on regarde sur l'ensemble de la planète, on peut dire qu'on a augmenté l'intensité ou la fréquence de ces événements. Alors, quoi pour demain ? L'évolution du climat futur, elle va dépendre au premier ordre de l'effet de serre et au premier ordre de nos rejets de dioxyde de carbone. Donc pour ce rapport, ce qui est fait, c'est d'explorer un ensemble de scénarios théoriques. Ce n'est pas des scénarios construits par des économistes, hein, c'est vraiment théorique. Et si la perturbation radiative en watts par mètre carré piquait en 2030 et puis se stabilisait pour diminuer, et si cette perturbation continuait à augmenter? Donc ces différents scénarios, le nom qu'on leur donne, c'est l'ampleur de la perturbation radiative. 2,6 pour le scénario bas, 8,5 watts par mètre carré pour le scénario haut. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on stabilise à peu près au niveau actuel. Là, ça veut dire qu'on multiplie quasiment par 4 l'effet radiatif de nos activités. Alors, en fait, ces courbes, elles traduisent des choix politiques et des stratégies de développement très différentes. Ce scénario bas, c'est pas celui vers lequel spontanément on tend là, en ce moment. Donc ce scénario, c'est un contrôle fort des émissions de gaz à effet de serre et rapide. Donc des politiques climatiques contraignantes. Les scénarios intermédiaires, c'est des scénarios de stabilisation. Et celui-là, c'est un scénario où on utilise vraiment au maximum les énergies fossiles disponibles. Donc c'est vraiment très contrasté. Alors pour bien vous faire comprendre à quel point ces scénarios sont des voies de développement différentes, je vous montre ici les émissions mondiales de CO2 par an. Ça, c'est ce qui est observé. Les trajectoires compatibles avec le scénario bas, c'est que les émissions mondiales de CO2, elles sont maximales d'ici une vingtaine d'années et puis elles baissent et elles sont nulles en 2060. C'est ça, hein, le scénario compatible avec ça. Tous les autres, en fait, c'est des scénarios où on va avoir des émissions qui piquent, alors en 2050, en 2080 ou plus tard, et dans ce cas-là, on aura une perturbation radiative plus forte. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de climat ? Donc, on montre ici les deux scénarios les plus contrastés. Ça, c'est le réchauffement récent, simulé par 42 modèles de climat. Et puis ça, c'est le scénario bas ou le scénario haut. Dans le scénario le plus bas, on aurait encore environ 1 degré de réchauffement supplémentaire. C'est au côté un peu inéluctable. Hein. Donc, dans le scénario le plus optimiste, on aurait un réchauffement plus fort, ce siècle, que le précédent, mais qui se stabiliserait à horizon 2050 et au-delà. Dans tous les autres scénarios, l'ampleur totale du réchauffement, depuis la période pré-industrielle, dépasse 2 degrés. Et enfin, dans le scénario haut, on irait vers encore 4 degrés de réchauffement supplémentaire. Donc, quand les médias racontent ce résultat, ils disent le climat pourrait se réchauffer de 1 à 4 degrés. C'est complètement faux, hein. C'est si on continue sur le schéma actuel d'utilisation d'énergie fossile, on va vers un réchauffement de 4 degrés en 2100 et qui se poursuit bien au-delà. Pour avoir seulement 1 degré de réchauffement en plus, il faut infléchir complètement notre politique énergétique mondiale très vite. Et ça, c'est important, en fait, hein, de voir cette fenêtre temporelle. Ensuite, ces courbes, elles sont évidemment très trompeuses. Dans aucun cas, l'évolution du climat, elle ressemblera à un truc aussi simple. Le climat lui-même, il a une variabilité d'une année à l'autre, liée aux échanges océan-atmosphère. Il y aura des accélérations, des plateaux, même des petites diminutions, ça c'est normal. Il y aura des éruptions volcaniques qui vont faire des coups de froid. Donc, la réalité, elle sera un peu plus compliquée. Ça, c'est important à savoir. Et puis ensuite, ça ne s'arrête pas en 2100. Et dans ce scénario haut, on a 8 degrés de réchauffement dans les deux siècles qui suivent. C'est-à-dire ça passe de 4 à 8. Là, on voit que le début de la réponse. Ça pose aussi des questions, en fait, qui, à mon sens, sont des questions morales. Parce que c'est quelque part la trajectoire sur laquelle on place le climat de cette planète, pour nous, mais aussi pour nos enfants qui sont déjà là, et pour lesquels, moi, je pense, se pose la question de leur droit à disposer d'un climat relativement stable. Alors, à quoi ressemble un climat 4 degrés plus chaud? Donc, sous forme de carte, voici la structure qui est simulée par tous les modèles de climat. Un réchauffement plus marqué sur les continents que les océans. Et le mécanisme est simple. Vous réchauffez de l'eau de mer, qu'est-ce qui se passe? Ça évapore et ça limite le réchauffement. Vous réchauffez les sols, ben, au début ils évaporent, puis après il n'y a plus d'eau, et là ça surchauffe. Donc c'est ce type de processus hein, qui est à l'œuvre. C'est le processus d'ailleurs qui amplifie les canicules quand les sols sont secs. Ensuite, on a un réchauffement très prononcé autour de l'Arctique, ben, moins de neige, moins de banquises, moins d'effets miroirs, et ça se réchauffe encore plus, pour vraiment faire simple. Donc ce réchauffement très prononcé, 4 degrés d'ici à 2100, c'est à peu près l'ampleur du changement entre une période glaciaire et un climat chaud, 4 degrés. Le dernier gros changement que l'homme moderne a connu, c'est ça, c'est la dernière déglaciation. Le rythme des changements de température, c'était 1 degré par 1000 ans pour la planète. Là, on parle de 4 degrés par 100 ans. Pour des paléoclimatologues, ce type de simulation, en fait, c'est vraiment quelque chose d'abrupt par rapport à l'échelle géologique des changements passés. Sur les précipitations, on voit en fait des résultats très contrastés. Dans les régions tempérées et polaires, plus chaud, plus doux, plus humide. Direct, plus de pluie. Du côté des régions méditerranéennes ou subtropicales, c'est plutôt l'inverse, moins de précipitations. Et ça, c'est lié au fonctionnement de l'atmosphère. Alors, on le voit ici. Donc, l'atmosphère, elle marche avec des cellules en trois dimensions. Près de l'équateur, on a de l'air chaud et humide qui monte, qui pleut. Puis ensuite, on a de l'air sec et froid qui redescend. Et c'est ce qui donne naissance aux bandes désertiques, en fait, hein, de part et d'autre de l'équateur. Dans un climat plus chaud, cette cellule, qu'on appelle la cellule de Hadley, elle s'élargit. Donc, la conséquence, c'est des conditions plutôt plus humides près de l'équateur, et puis des conditions plus sèches qui s'élargissent vers les zones de climat méditerranéen. Et puis enfin, des conditions plus humides dans les régions tempérées et polaires. Alors ça, c'est vraiment la grande image, hein. On a des différences régionales qui peuvent être très marquées. Je vais essayer d'illustrer d'ailleurs une de nos incertitudes. Donc, un climat qui se réchauffe serait plus sec en Méditerranée. Prenons l'exemple d'une ville comme Marseille. D'où vient l'eau utilisée par Marseille? Elle vient du Rhône. Le Rhône, il n'est pas uniquement alimenté par les pluies d'été autour de Marseille. Il est alimenté par la fonte des glaciers des Alpes et les pluies sur le relief. Et on a beaucoup de questions sur notre capacité à simuler correctement les orages sur les reliefs. Donc, dès qu'on regarde localement, on se pose d'autres questions et on est parfois à la limite des outils de grande échelle dont on dispose. Globalement, donc on simule un contraste entre les saisons humides et sèches qui va augmenter et un contraste également dans les saisons. Typiquement en France, hein, ce serait des hivers plus doux et plus humides au nord et plus chauds et plus secs partout. Des changements dans les régimes de mousson avec des pluies de mousson qui augmenteraient et une durée de saison de mousson
plus longue. Et on a la moitié de la population mondiale qui est affectée hein, par, par ces régimes de mousson. Alors, je vais passer ça. Et puis, juste dire un mot sur les événements extrêmes. Donc, on a des conclusions fortes sur deux types d'événements extrêmes, les fortes pluies et les vagues de chaleur. Donc, il est très probable que les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps. Alors, ces vagues de chaleur, je vais vous en donner quelques exemples récents. 2003 en France, 2010 en Russie, 2012 aux États-Unis et puis début 2013 en Australie. Quelles sont leurs conséquences? Souvent des feux de végétation, des problèmes de qualité de l'air, des problèmes de santé publique pour les personnes âgées ou vulnérables, des chutes des rendements agricoles. Et si on regarde le prix des matières premières agricoles sur les derniers 20 ans, on voit qu'en fait, on a eu des augmentations de leur prix suite à ces événements. Avec deux effets. L'effet du climat, un peu plus chaud et moins de rendement, et l'effet de la spéculation. Et plus on sait à l'avance qu'on aura une sécheresse, plus en fait on spécule en amont sur le prix des matières premières agricoles, ce qui démultiplie en fait hein, l'effet seul des petits rendements, enfin des baisses de rendement. Donc ça c'est un point très préoccupant. Et puis deuxième point très, très préoccupant, les événements de précipitation extrême. Donc même dans une région qui deviendrait un peu plus sèche, concentrée en quelques heures, des cumuls très importants de précipitations qui augmenteraient. Donc chez nous on appelle ça les pluies cévenoles, typiquement, dans le sud-est de la France. Donc c'est une vraie difficulté pour dimensionner la gestion de ces aléas et on voit en fait des événements se produire avec des intensités sans précédent. Je pense par exemple à des pluies diluviennes qui ont dévasté de grandes régions du Pakistan récemment et des cumuls de pluie qu'on n'avait jamais enregistrés dans ces régions avec un facteur 2, hein, 2 ou 3 sur des pluies de, vraiment colossales. En ce qui concerne les tempêtes, pas de conclusion claire. En ce qui concerne les ouragans, on considère que dans l'état des connaissances, on n'aurait pas plus d'ouragans, mais on aurait un renforcement de l'intensité des ouragans les plus violents, en vitesse de vent et en quantité de pluie autour du centre de l'ouragan. Du côté de l'Arctique, donc des changements qui seront particulièrement spectaculaires, et vous avez là donc, l'évolution de la banquise hein, que je vous montrais tout à l'heure. Et puis dans le scénario bas, on conserverait une petite zone couverte de glace de mer en été. Dans les scénarios hauts, on aurait plus de banquise en fait sur l'océan Arctique en été. Elle se reformerait en hiver pendant la nuit polaire, mais elle disparaîtrait quasiment complètement en été. Alors évidemment, les conséquences, elles sont complexes, avec un mélange d'opportunités et de vulnérabilités. Donc des opportunités de revendication de zones de pêche, de routes maritimes, d'exploration pétrolière, et puis des vulnérabilités pour les écosystèmes ou pour les modes de vie les plus traditionnels. Et c'est une région où ces choses-là ne sont pas des spéculations, mais sont vraiment aujourd'hui à l'œuvre. Donc l'incertitude, en fait, elle est surtout sur la date à partir de laquelle on pourrait avoir ce type de recul se produire. Donc plus on va rajouter du CO2, plus on va acidifier les océans. Dans le scénario le plus bas, on aurait un pH de l'océan qui baisserait de 0,1 unité ce siècle. Dans le scénario le plus haut, 0,3 unités, c'est-à-dire 1000 fois plus d'ions hydrogène dans l'eau de mer. Les régions les touchées en première seront les régions polaires, en fait, nord et sud. Et les conséquences pour les écosystèmes marins sont complexes. Elles sont étudiées en aquarium, en fait, en laboratoire. Elles sont difficiles à anticiper dans les vrais écosystèmes. On se rend compte qu'il y a des adaptations génétiques. Parmi les coraux, il y a certaines espèces qui ont la capacité à subsister dans des milieux plus acides. Et il y a vraiment énormément de travaux en cours pour essayer d'affiner ce que peuvent en être les impacts. Et puis je vais finir en parlant du niveau des mers. Donc le niveau des mers est une conséquence de l'océan qui se réchauffe, des glaciers et des calottes qui fondent. Si on prend tous les petits glaciers de montagne, les glaciers des Alpes, des Andes, du Tibet, de l'Arctique, ensemble, ils représentent seulement 40 cm de niveau des mers, s'ils fondaient plus. C'est cet aspect-là qui est essentiel pour ce siècle. Par contre, là où on a d'énormes masses de glace, c'est le Groenland et l'Antarctique. Par contre, ces masses de glace, elles réagissent lentement.
Donc typiquement, pour ce siècle, on pense que la fonte du Groenland ne peut représenter que une dizaine de centimètres de risque. Par contre, c'est plusieurs mètres sur les siècles suivants. Donc, dans l'état de nos connaissances, notre capacité à modéliser le réchauffement de l'océan, la fonte des glaciers et puis l'écoulement des glaces du Groenland et de l'Antarctique, dans le scénario le plus bas, on aurait environ 40 cm de montée du niveau des mers ce siècle, c'est-à-dire davantage qu'au siècle précédent. Et ça se poursuivrait au-delà. Dans le scénario le plus haut, on calcule un risque autour de 75 cm pour ce siècle, avec une valeur élevée autour de 1 mètre plausible. Nos collègues des Pays-Bas construisent leur plan d'adaptation avec un risque le plus haut plausible qui est autour d'un mètre 15. Donc eux, ils travaillent par rapport à ce qu'ils considèrent comme le risque le plus élevé qui les concerne. À horizon 2100, donc on parle d'un risque de quelques dizaines de centimètres, à horizon 2300, c'est autour de 1 à 3 mètres. Puisque évidemment, l'océan il met du temps à se réchauffer en profondeur et quand on enclenche la fonte d'un glacier, elle s'auto-entretient pendant un certain temps. Donc cette question du niveau des mers, c'est vraiment quelque chose qui se pose sur une durée longue, bien au-delà de ce siècle. Et c'est quelque chose qui est important. Alors peut-être ça vous paraît très loin son temps, mais on est dans une phase où on a une urbanisation très forte, de grandes agglomérations qui se construisent dans les pays du Sud, souvent au niveau des mers. Et donc la question de la viabilité de ces infrastructures dans le temps, c'est une question vraiment importante. Alors là où le niveau des mers montera le plus, c'est dans les régions tropicales, où les océans se réchauffent le plus. Et puis pour finir, peut-être en guise de conclusion, à travers toutes ces simulations que je vous ai présentées, on a en fait une constance. Et cette constance, c'est assez simple, c'est que l'évolution des températures par rapport au niveau pré-industriel, elle dépend essentiellement du cumul des émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? Elle intègre ses effets dans le temps. Donc, en fait, c'est pas important de savoir si le CO2 il a été émis par vos grands-parents, vos parents, vous, vos petits-enfants. C'est pas important de savoir s'il a été émis en Chine, en Europe ou ailleurs. Ce qui compte, c'est le cumul. Et alors, on peut utiliser toutes nos simulations pour relier un objectif de maîtrise du climat à une cible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en 2009, les gouvernements ont affiché un objectif issu de la conférence de Copenhague qui consiste à limiter le réchauffement à 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Alors comment ils ont choisi cet objectif ? En regardant les impacts sur le niveau des mers, les impacts sur la production agricole, sur la santé, sur la qualité de l'air, etc. Donc si on voulait que le réchauffement ne dépasse pas 2 degrés, il faudrait que les émissions de CO2 tout seul ne dépassent pas 1000 gigatonnes. Et puis il y a d'autres gaz à effet de serre, donc en fait il faudrait que ce soit pas plus de 790. Alors, aujourd'hui on a déjà émis plus de 515 gigatonnes, on en émet 10 par an. Le calcul il est simple, hein. Si on ne change rien, dans 10 ou 20 ans, on aura émis tout le CO2 qui, cumulé, conduira inéluctablement à un réchauffement plus fort que 2 degrés. On voit que la fenêtre de temps, elle est importante. C'est-à-dire, si on n'infléchit pas les émissions de CO2 maintenant, l'objectif des gouvernements, il s'envole, en fait. Hein. Sauf surprise. Voilà, donc ce que j'essaie de faire par là, c'est une sorte de panorama des points clés de ce rapport. J'ai essayé assez brièvement de mettre aussi en évidence certaines des incertitudes, parce qu'elles sont importantes, et puis c'est nos voies de recherche, et elles sont présentes. Et si vous voulez en savoir plus, donc on a le résumé pour décideurs qui existe en français. Par contre, tout le reste du rapport, il est en anglais et vous pouvez gratuitement le télécharger. Je recommande cette lecture en cas d'insomnie sur le site Climate Change 2013.
Merci pour ces informations. Je vais me permettre quand même, avez-vous au moins une question, mais pas plus, pour pouvoir enchaîner de suite après avec notre ami Raphaël. Mais je pense que le sujet était intéressant et mérite peut-être une question. Notre ami Jean-Paul.
Oui, bonjour. Oui, merci vraiment, super. Bon, avant de poser la question, je vais prendre deux précautions parce que sinon je risquerais d'être mal compris. Je suis loin d'être un climato-sceptique, je suis loin d'être un défenseur des énergies fossiles, mais quand vous projetez, bon, jusqu'en 2100 ça me paraît, mais quand vous allez au-delà, est-ce que vous avez pris en compte l'épuisement des ressources fossiles?
Alors, en fait, c'est
parce qu'on n'aura pas constamment du charbon à brûler.
En fait, la question, elle se pose de savoir quand on atteindra l'optique. Soit c'est délibéré si on met en place des politiques climatiques ou autres, soit en fait, on sera juste limité par celles qui sont économiquement exploitables. Donc ça, c'est une discussion qui est en cours parmi les spécialistes de l'économie de l'énergie et le rapport du groupe 3 du GIEC qui sera rendu public en avril. Il y a effectivement une discussion sur le scénario le plus haut. Par contre, dans ce scénario, les émissions, elles piquent à la fin de ce siècle, hein, où c'est essentiellement le charbon. Et par contre, les conséquences sur le climat, elles se prolongent pendant des milliers d'années au-delà. Donc c'est effectivement un point qui est important. Et la question qui se pose en termes d'énergie fossile, c'est essentiellement ce qui est non conventionnel et puis ce qui est le charbon.
Merci. Y aurait-il, pendant que je switch, une autre question éventuelle? Je regardais, c'est assez amusant. Une personne, je me disais, elle devrait poser une question. Salut Jean-Pierre.
Bonjour. Une question simple. Est-ce qu'on a une bonne idée des facteurs amplificateurs? On a parlé assez souvent du relâchement de méthane du permafrost ou du changement de sens ou de la disparition du Gulf Stream, est-ce qu'on a aujourd'hui identifié ces phénomènes amplificateurs qui ne sont peut-être pas encore dans ces courbes?
Alors, dans la réponse du climat en gaz à effet de serre, hein, la réponse directement radiative, elle est toute petite. Donc, ce qui fait ce que je vous montrais là, c'est déjà des rétroactions amplificatrices liées au profil de température dans l'atmosphère, à une atmosphère qui contient plus de vapeur d'eau qui amplifie, à des effets de nuages qui réchauffent, et puis également à la fonte des neiges et de la glace. Ça, c'est les premiers effets amplificateurs. Alors, se pose la question, dans un climat qui change, de rejet supplémentaire de méthane, par exemple, par le dégel du pergélisol. Les estimations aujourd'hui, c'est que dans la deuxième moitié de ce siècle, dans les scénarios hauts, ces rejets pourraient représenter 10% de nos contributions. Donc, ce serait un facteur supplémentaire qui, graduellement, maintiendrait longtemps des niveaux plus élevés de gaz à effet de serre. Pour dire autrement, sur un scénario donné, ça pourrait faire typiquement jusqu'à 1 degré de plus sur l'évolution du climat. Alors, ce qui concerne les courants marins dans l'océan Atlantique Nord, donc ça, c'est une idée qui a été popularisée par un film catastrophe. Donc, dans ce film catastrophe, tout est faux. On sait que la circulation dans l'océan Atlantique, elle peut changer si on ajoute brutalement de l'eau douce à sa surface, ça on le sait. Dans toutes les simulations, on a un affaiblissement du transport de chaleur par les courants marins vers le nord de l'Atlantique. À au-delà de 2100, certains calculs montrent même un effondrement du tapis roulant marin. Ça n'empêche pas d'avoir un réchauffement global, un réchauffement hémisphérique. C'est juste une petite zone qui se réchaufferait moins vite. En fait, c'est l'atmosphère qui prend le relais.
Merci. Le temps passe. Merci encore Valérie et bravo.